Jules Verne, Le village aérien, chapitre 18. Brusque dénouement. La chance se déclarait pour les fugitifs. Tout ce tapage à l'intérieur de l'habitation n'avait attiré personne. Déserte la place, déserte les rues qui y débouchaient. Mais la difficulté était de se reconnaître au milieu de ce dédale obscur, de circuler entre les branchages, de gagner par le plus court l'escalier de N'Gala. Soudain, Lomaï se présenta devant Camis et ses compagnons. Lomaï était accompagné de son enfant. Le petit, qui les avait suivis pendant qu'ils se rendaient à la case d'Mselotalatala, était venu prévenir son père. Celui-ci, redoutant quelque danger pour le Forloper et ses compagnons, se hâta de les rejoindre. Comprenant alors qu'ils cherchaient à s'enfuir, il s'offrit à leur servir de guide. Ce fut heureux car aucun d'eux n'aurait pu retrouver le chemin de l'escalier. Mais lorsqu'ils arrivèrent en cet endroit, quel fut leur désappointement! L'entrée était gardée par Raggy et une douzaine de guerriers. Forcer le passage, à quatre? Serait-ce possible avec espoir de succès? Max Hubert crut le moment venu d'utiliser sa carabine. Raggy et deux autres venaient de se jeter sur lui. Max Hubert, reculant de quelques pas, fit feu sur le groupe. Raggy, atteint en pleine poitrine, tomba raide mort. Assurément, les Wagdis ne connaissaient ni l'usage des armes à feu ni leurs effets. La détonation et la chute de Raggy leur causèrent une épouvante dont on ne saurait donner une idée. Le tonnerre foudroyant la place pendant la cérémonie de ce jour les eut moins terrifiés. Cette douzaine de guerriers se dispersa, les uns rentrant dans le village, les autres dégringolant l'escalier avec une prestesse de quadrumane. Le chemin devint libre en un instant.
« En bas ! » cria Camis.
Il n'y avait qu'à suivre Lomaï et le petit, qui prirent les devants. John Cort, Max Hubert, Langa, le Forloper, se laissèrent pour ainsi dire glisser sans rencontrer d'obstacle. Après avoir passé sous le village aérien, ils se dirigèrent vers la rive du Rio, l'atteignirent en quelques minutes, détachèrent un des canots et s'embarquèrent avec le père et l'enfant. Mais alors des torches s'allumèrent de toutes parts, et de toutes parts accoururent un grand nombre de ces Wagdis qui erraient aux environs du village. Cris de colère, cris de menace furent appuyés d'une nuée de flèches.
« Allons !» dit John Cort. « Il le faut !»
Max Hubert et lui épaulèrent leurs carabines, tandis que Camis et Langa manœuvraient pour écarter le canot de la berge. Une double détonation retentit. Deux Wagdis furent atteints, et la foule hurlante se dissipa. En ce moment, le canot fut saisi par le courant et il disparut en aval sous le couvert d'une rangée de grands arbres. Il n'y a point à rapporter, en détail du moins, ce que fut cette navigation vers le sud-ouest de la grande forêt. S'il existait d'autres villages aériens, les deux amis ne devaient rien savoir à cet égard. Comme les munitions ne manquaient pas, la nourriture serait assurée par le produit de la chasse, et les diverses sortes d'antilopes abondaient dans ces régions voisines de l'Oubangui. Le lendemain soir, Camis amarra le canot à un arbre de la berge pour la nuit. Pendant ce parcours, John Cort et Max Hubert n'avaient point épargné les témoignages de reconnaissance à Lomaï, pour lequel ils éprouvaient une sympathie toute humaine. Quant à Langa et à l'enfant, c'était entre eux une véritable amitié fraternelle. Comment le jeune indigène aurait-il pu sentir les différences anthropologiques qui le mettaient au-dessus de ce petit être? John Cort et Max Hubert espéraient bien obtenir de Lomaï qu'il les accompagnerait jusqu'à Libreville. Le retour serait facile en descendant ce rio, qui devait être un des affluents de l'Oubangui. L'essentiel était que son cours ne fût obstrué ni par des rapides ni par des chutes. C'était le soir du 16 avril que l'embarcation avait fait halte, après une navigation de 15 heures. Camis estimait que de 40 à 50 kilomètres venaient d'être parcourus depuis la veille. Il fut convenu que la nuit se passerait en cet endroit. Le campement organisé, le repas terminé, l'Omaï veillant, les autres s'endormirent d'un sommeil réparateur qui ne fut troublé en aucune façon. Au réveil, Camis fit les préparatifs de départ, et le canot n'avait plus qu'à se lancer dans le courant. En ce moment, l'Omaï, qui tenait son enfant d'une main, attendait sur la berge. John Cort et Max Hubert le rejoignirent et le pressèrent de les suivre. L'Omaï, secouant la tête, montra d'une main le cours du rio et de l'autre les épaisses profondeurs de la forêt. Les deux amis insistèrent, et leurs gestes suffisaient à les faire comprendre. Ils voulaient emmener l'Omaï et l'Imaï avec eux, à Libreville. En même temps, Langa accablait l'enfant de ses caresses, l'embrassant, le serrant entre ses bras. Il cherchait à l'entraîner vers le canot. L'Imaï ne prononça qu'un mot. « Ngora !» Oui, sa mère qui était restée au village et près de laquelle son père et lui voulaient retourner. C'était la famille que rien ne pouvait séparer. Les adieux définitifs furent faits après que la nourriture de l'Omaï et du petit eût été assurée pour leur retour jusqu'à Ngala. John Cort et Max Hubert ne cachèrent pas leur émotion à la pensée qu'ils ne reverraient jamais ces deux créatures affectueuses et bonnes, si inférieure que fut leur race. Quant à Langa, il ne put se retenir de pleurer, et de grosses larmes mouillèrent aussi les yeux du père et de l'enfant.
« Eh bien, » dit John Cort, « croirez-vous maintenant, mon cher Max, que ces pauvres êtres se rattachent à l'humanité ?»«
Oui, John, puisqu'ils ont, de même que l'homme, le sourire et les larmes. » Le canot prit le fil du courant, et, au coude de la rive, Camis et ses compagnons purent envoyer un dernier adieu à l'Omaï et à son fils. Les journées du 17 au 26 avril furent employées à descendre la rivière jusqu'à son confluent avec l'Oubangui. Le courant étant très rapide, il y eut lieu d'estimer à près de 300 kilomètres le parcours fait depuis le village de Ngala. Le Fort Loper et ses compagnons se trouvaient alors à la hauteur des rapides de Zongo, à peu près à l'angle que forme le fleuve, en obliquant vers le sud. Ces rapides, il eût été impossible de les franchir en canot, et, pour reprendre la navigation en aval, un portage allait devenir nécessaire. Il est vrai, l'itinéraire permettait de suivre à pied la rive gauche de l'Oubangui dans cette partie limitrophe entre le Congo indépendant et le Congo français. Mais à ce cheminement pénible, le canot devait être infiniment préférable. N'était-ce pas du temps gagné, de la fatigue épargnée? Heureusement, Camis put éviter cette dure opération du portage. Au-dessous des rapides de Zongo, l'Oubangui est navigable jusqu'à son confluent avec le Congo. Les bateaux ne sont pas rares qui font le trafic de cette région où ne manquent ni les villages, ni les bourgades, ni les établissements de missionnaires. Ces 500 kilomètres qui les séparaient du but, John Cort, Max Hubert, Camis et Langa les franchirent à bord d'une de ces larges embarcations auxquelles le remorquage à vapeur commence à venir en aide. Ce fut le 28 avril qu'ils s'arrêtèrent près d'une bourgade de la rive droite. Remis de leur fatigue, bien portant, il ne leur restait plus que 100 kilomètres pour atteindre Libreville. Une caravane fut aussitôt organisée par les soins du Fort Loper et, marchant directement vers l'ouest, traversa ces longues plaines congolaises en 24 jours. Le 20 mai, John Cort, Max Hubert, Camis et Langa faisaient leur entrée dans la factorerie, en avant de la bourgade où leurs amis, très inquiets d'une absence si prolongée, sans nouvelles d'eux depuis près de 6 mois, les reçurent à bras ouverts. Ni Camis ni le jeune indigène ne devaient plus se séparer de John Cort et de Max Hubert. Langa n'était-il pas adopté par eux? Et le Fort Loper n'avait-il pas été leur dévoué guide pendant cet aventureux voyage?
et le docteur Jahausen, et ce village aérien d'Ungala, perdu sous les massifs de la grande forêt. Eh bien, tôt ou tard, une expédition devra prendre avec ces étranges Wagdis un contact plus intime, dans l'intérêt de la science anthropologique moderne. Quant au docteur allemand, il est fou, et, en admettant que la raison lui revienne et qu'on le ramène à Malimba, qui sait s'il ne regrettera pas le temps où il régnait sous le nom de Mselo Talatala, et si, grâce à lui, cette peuplade de primitifs ne passera pas un jour sous le protectorat de l'Empire d'Allemagne ? Cependant, il serait possible que l'Angleterre...